Le Monde aujourd'hui, à Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 17h30 en temps universel. Ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Les titres en ce mardi 30 juillet 2019. En Mauritanie, remise en liberté d'un blogueur initialement condamné à mort pour blasphème. Au Soudan, pas de négociation ce mardi entre les généraux et les meneurs de la contestation après la mort hier de 5 adolescents. Le président américain critique la Chine alors que les pourparlers reprennent à Shanghai pour tenter de mettre fin aux tensions commerciales entre Washington et Pékin. Et dans la partie magazine, retour sur la rencontre Bédié-Gbagbo, les deux anciens présidents de la Côte d'Ivoire, autrefois ennemis jurés.
C'est les grands hommes politiques qui sont là, Bédié, Alassane et Gbagbo. Ces trois personnes-là, une fois qu'ils sont unis, je pense que pour cette bonne marche de ce pays-là, nous aurons en tout cas beaucoup de choses positives dans cette Côte d'Ivoire-là.
Et puis ne manquez pas non plus vos rubriques habituelles, la Minute Éco et les sports dans 10 minutes. En Mauritanie, après 5 années de détention, le blogueur Mohamed Cheikh Ould Mketir, qui était accusé de blasphème, a été remis en liberté. Il n'est toutefois pas entièrement libre de ses mouvements, d'après son avocate. Compte rendu, Abdourahman Dia.
C'est Reporters sans frontières qui a annoncé la libération du blogueur de 36 ans, initialement condamné à mort, plus de 5 ans et demi après son incarcération. Il a été remis en liberté à l'aube lundi 29 juillet, a précisé Reporters sans frontières, selon qui Ould Mertaïr a remercié les organisations qui se sont mobilisées pour sa libération. Son avocate Fatima Tambay a confirmé sa remise en liberté en soulignant qu'il n'est pas entièrement libre de ses mouvements. Le jeune homme n'est plus à Nouakchott, a-t-elle ajouté, sans donner plus de précision. Monsieur Ould Mektaïr, détenu depuis janvier 2014, a vu sa condamnation à mort pour apostasie ramenée en appel à 2 ans de prison en novembre 2017, après avoir exprimé son repentir. Récemment, il s'est à nouveau repenti publiquement, une condition posée par des chefs religieux qui avaient lancé la fatwa contre lui après un blog qu'ils avaient jugé insultant pour l'islam.
Dans le même registre, l'arrestation d'un journaliste d'investigation provoque des remous en Tanzanie. Ce mardi, la police tanzanienne rejette les informations selon lesquelles Eric Kabendera a été enlevé. Ce journaliste âgé de 39 ans a été appréhendé chez lui à Dar es Salaam hier, au motif qu'il détiendrait frauduleusement la nationalité tanzanienne. Pour Reporters sans frontières, les raisons évoquées par la police ne tiennent pas la route. D'après Arnaud Froger de RSF, il n'y a nullement besoin de procéder à une arrestation et à un interrogatoire pour une simple vérification d'identité. Au Soudan, les pourparlers prévus aujourd'hui avec les généraux ont été suspendus. Les négociateurs de la contestation ont décidé de se rendre à Al-Obeid, la ville où 5 étudiants ont été tués hier lors d'une manifestation. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Nous ne pouvons pas nous asseoir à la table des négociations avec ceux qui permettent de tuer des révolutionnaires, a affirmé Sidik Youssef, l'un des meneurs de la contestation. Ils accusent les forces de soutien rapide dirigées par le numéro 2 du conseil militaire d'avoir ouvert le feu contre les manifestants qui dénonçaient les pénuries de pain et de carburant à Al-Obeid. Les miliciens djangawides et des snipers ont tiré à balles réelles sur des écoliers, a affirmé l'association des professionnels soudanais. Le général Abdel Fattah Al-Bourhan, chef du conseil militaire, a qualifié cette tuerie, je cite, de crime inacceptable qui ne doit pas rester impuni. L'UNICEF réclame une enquête indiquant que les victimes avaient entre 15 et 17 ans. À Khartoum, des centaines de lycéens se sont rassemblés pour dénoncer la mort de leurs camarades. Les négociations qui devaient reprendre ce mardi devaient permettre de finaliser l'accord de partage du pouvoir. Cet accord prévoit la mise en place d'un conseil souverain composé de 5 militaires et 6 civils chargés de diriger la transition pendant 3 ans.
En Algérie, l'armée dit rejeter catégoriquement tout préalable au pourparler. En vue de la présidentielle, le chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, a fustigé aujourd'hui les conditions posées au pouvoir par la nouvelle instance nationale de dialogue, chargée de mener des consultations sur les modalités de la future élection pour sortir le pays de la crise. Cette instance a également rejeté par les protestataires. Le décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi a quelques quelques mois de la fin de son mandat précipite le calendrier électoral avec une présidentielle dans moins de 50 jours. L'instance chargée des élections a annoncé aujourd'hui la date du 15 septembre pour la présidentielle.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain s'est défendu ce mardi des accusations de racisme après ses critiques ces derniers jours contre un pasteur et un élu noir de la ville de Baltimore. « Je suis la personne la moins raciste au monde », c'est ce que Donald Trump a déclaré aujourd'hui depuis les jardins de la Maison Blanche. C'est une polémique que les candidats démocrates ne manqueront pas d'aborder ce soir à Détroit, où ils vont se retrouver tout à l'heure pour un deuxième débat étalé sur deux soirées, là où nous avons en ligne Philippe Crowther, notre confrère de AP, Associated Press. Bonsoir, à quoi donc faut-il s'attendre?
Bonsoir. Alors, il n'y a aucun doute que tous les candidats vont devoir se prononcer sur ces propos jugés comme étant racistes de la part du président américain. Tous les candidats vont en parler sur scène ici à Détroit. La seule question reste avec quel degré d'agressivité vont-ils attaquer le président américain? Alors, il y a d'autres sujets desquels ces candidats vont sans doute parler, dont la réforme de la santé aux États-Unis, un sujet qui revient tous les quatre ans. L'immigration, bien sûr aussi. Que vont faire, ces candidats démocrates sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique? Et ensuite, bien sûr, la politique extérieure, elle va être discutée aussi, comme c'était déjà le cas pendant le dernier débat. C'était il y a un mois à Miami, en Floride.
Est-ce également l'occasion pour les 20 prétendants, ils sont nombreux, de sauver leur candidature?
Oui, c'est déjà le cas en fait pour quelques candidats la nécessité de sauver leur candidature parce qu'il y a 12 débats en total. C'est donc le deuxième qui a lieu ici à Détroit. Avec 20 candidats sur scène ici à Détroit, il y a autant de candidats qu'ils ont dû diviser les candidats en deux, 10 candidats la première soirée, 10 candidats la deuxième soirée. Ce sont trop de candidats, donc on s'attend à que quelques-uns disparaissent, peut-être déjà après ce deuxième débat ici au Michigan. Alors, quelle tactique va être utilisée par ces candidats pour rester dans les discussions? D'abord, il faudra créer des moments mémorables qui seront donc rejoués par les télévisions américaines pendant les prochains jours. Voilà une tactique qui va être utilisée par ces 20 candidats démocrates sur scène. L'autre chose qu'on pourrait voir de la part de ces démocrates, c'est de l'agressivité entre eux. Est-ce qu'il y aura un candidat qui va attaquer un autre sur scène? C'est très très probable. Et ensuite, il faut toujours le rappeler, il y a beaucoup d'Américains qui ne connaissent pas encore tous ces candidats démocrates, donc c'est encore une possibilité pour eux de se présenter à l'électorat américain.
Philippe Crowther, vous êtes notre confrère de l'agence AP et vous étiez en direct de la ville américaine de Détroit, dans le Michigan. Je vous remercie et je suis sûr qu'on va reprendre contact. Merci bien, Philippe. Ailleurs dans l'actualité, le président Donald Trump a vivement critiqué la Chine aujourd'hui alors que les négociateurs américains sont arrivés à Shanghai pour reprendre les pourparlers afin de mettre un terme au conflit commercial entre les deux pays. Irénée Herman Ongbu.
Mon équipe est en train de négocier avec eux maintenant, mais les Chinois finissent toujours par modifier l'accord à leur avantage, a déclaré le président américain. Les discussions de Shanghai sont le premier face-à-face depuis l'échec des négociations en mai dernier. M. Trump avait accusé Pékin d'avoir manqué à ses engagements. Cette fois-ci, le locataire de la Maison Blanche a affirmé que la Chine était censée commencer à augmenter ses achats de produits agricoles américains. Mais c'est le problème avec la Chine, elle ne fait tout simplement pas ce qu'elle dit qu'elle va faire. Le représentant au commerce Robert Lighthizer et le secrétaire au trésor Stephen Mnuchin doivent commencer demain les discussions avec le vice-premier ministre chinois Liu He, proche du président Xi Jinping. Mais le président Trump laisse entrevoir que ces négociations ne devraient pas déboucher sur des avancées majeures. Pékin et Washington sont engagés dans un bras de fer commercial avec imposition réciproque de droits de douane punitifs sur plus de 360 milliards de dollars d'échanges annuels.
Quelques nouvelles en bref. En Russie, les autorités haussent le ton contre l'opposition avant une nouvelle manifestation le 3 août prochain à Moscou pour exiger de pouvoir participer aux élections locales après un rassemblement fermement réprimé par la police pendant le week-end. Une délégation de gardes-côtes émiratis s'est rendue à Téhéran aujourd'hui pour relancer les pourparlers entre les deux pays sur la sécurité maritime rompue depuis 2013. La région stratégique du Golfe a connu plusieurs moments de tension depuis le retrait américain en mai 2018 de l'accord nucléaire iranien, suivi du rétablissement de lourdes sanctions américaines contre l'Iran. En Irak, près de 10 millions de dollars d'aide aux déplacés de la province ravagée de Ninive ont été détournés par l'ex-gouverneur en fuite, d'après l'organe gouvernemental anticorruption. Le groupe État islamique avait établi ce qu'il appelait sa capitale à Ninive. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, la Minute Éco avec Nanit Talani.
Pour lutter contre la surpêche et reconstituer les stocks, le Ghana va interdire les chalutiers le long de ses côtes en août et septembre, après avoir interdit la pêche artisanale en mai et juin. Les responsabilités de la surpêche sont partagées entre les bateaux-usines, souvent opérés par des Chinois, et les pratiques des dizaines de milliers de petits pêcheurs. Ils utilisent des produits chimiques ou tuent les poissons à la dynamite, ce qui coûte environ 50 millions de dollars par an à l'économie du Ghana. La Banque centrale nigériane accorde une licence à une filiale de MTN lui permettant de fournir des services financiers. L'année dernière, le Nigeria avait annoncé qu'il autoriserait les entreprises de télécommunications à fournir des services bancaires dans le but de donner à des millions de Nigérians sans compte bancaire accès aux services de transfert d'argent mobile. Pour terminer, le chômage a atteint 29% en Afrique du Sud au second trimestre contre 27,6% au premier trimestre. Pour l'Institut de la Statistique, cela représente une augmentation de 1,4%, soit le niveau le plus élevé enregistré depuis 2008. Environ 49 000 emplois ont été perdus au premier trimestre, particulièrement dans les mines, les transports, le bâtiment et la banque.
Et maintenant, résumé de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
L'un des dirigeants du football guinéen suspendu.
Oui, la commission d'éthique de la Fédération guinéenne de football a suspendu Amadou Diaby pour des faits de corruption. Elle a indiqué que l'ancien sélectionneur du Sili National, Paul Put, limogé pour insuffisance de résultats, lui a confirmé, je cite, que la personne à qui il versait 10% de son salaire est le premier vice-président de la Fédération. Conséquence, la commission a suspendu Amadou Diaby jusqu'à la fin de l'enquête ouverte la semaine dernière. Avant d'être remercié, Paul Put a été accusé par le capitaine du Sili National, Ibrahim Traoré, d'avoir demandé de l'argent à des joueurs pour être sélectionnés à la CAN 2019.
Le Sénégalais Idrissa Gana Gueye signe au PSG.
Cette fois, c'est la bonne pour Thomas Tuchel. Après avoir tenté en vain d'acheter le milieu de terrain d'Everton cet hiver, le Paris Saint-Germain a officialisé la signature d'Idrissa Gana Gueye pour 4 ans. L'arrivée du milieu de terrain des Toffees pour 32 millions d'euros, hors bonus selon l'équipe, était attendue pour le club parisien qui souhaite renforcer un secteur qui l'a fait souffrir. Le PSG a été très affaibli par le départ à la retraite de Thiago Motta et le conflit avec Adrien Rabiot, parti à la Juventus Turin. Âgé de 29 ans, Gueye a brillé lors de la récente CAN, y compris offensivement, après une Coupe du Monde 2018 en Russie, où il était quand à un rôle défensif.
Hervé Renard, nouveau sélectionneur de l'Arabie Saoudite.
Le technicien français, qui a démissionné de son poste de sélectionneur du Maroc, a annoncé son arrivée à la tête de l'équipe d'Arabie Saoudite. La fédération saoudienne a confirmé l'information. Son patron Yasser Al-Misehal déclarant, je cite, que le choix a été fait sur un grand homme capable d'apporter un plus au football saoudien. Hervé Renard, 50 ans, était arrivé au Maroc en 2016 et a démissionné le 21 juillet. À la surprise générale, le Maroc, quart des finalistes lors de la CAN 2017, a été éliminé dès le 8e par le Bénin, pourtant réduit à 10 et novice à ce stade de la compétition.
Et en basket, le Mali éliminé en quart du mondial féminin des moins de 19 ans.
Les Maliennes ont été battues par l'Australie 63-51 lors des quarts de finale du mondial féminin de cette catégorie qui se déroule en Thaïlande. Les Australiennes ont fait la course en tête avec un score de 25-28 à la pause. Au retour des vestiaires, les Maliennes n'ont pas réussi à revenir au score et se sont finalement inclinées 63-51, moins en vue cette fois-ci avec 5 points et 15 rebonds. Sika Kone a tout de même été élue joueuse la plus en vue du côté malien.
Merci bien, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Nous braquons les projecteurs une nouvelle fois ce soir sur le tête-à-tête hier à Bruxelles entre deux anciens ennemis, les ex-présidents ivoiriens Henri Konan-Bédié et Laurent Gbagbo. Il s'agissait de leur première rencontre depuis 10 ans. Bédié avait apporté son soutien à Ouattara contre Gbagbo à la présidentielle de 2010. Du côté du pouvoir, le rassemblement des oufouettistes a qualifié cette rencontre de non-événement. D'autres réactions avec notre correspondante Aïcha Diarra à Boaké.
Tout le monde est dessus maintenant. C'est qu'on nous dit là, c'est pas ça qu'il fait. Voilà, actuellement là, nous on est découragés. On sait même pas où on est. Moi, à un moment donné, moi, je suis devenu gagnant, c'est mieux. Voilà, je suis devenu anglophone, puis j'allais m'asseoir là-bas, puis c'est fini. Et d'abord, là, pas marcher même pour le moment. Avec toute souffrance qu'on a traversée ici là, Boaké n'a pas bénéficié de quelque chose.
Et pendant que c'est les grands hommes politiques qui sont là, Bédié, Alassane et Gbagbo. Ces trois personnes-là, une fois qu'ils sont unis, je pense que pour cette bonne marche de ce pays-là, nous aurons en tout cas beaucoup de choses positives dans cette Côte d'Ivoire-là. Imaginez un instant que ces trois personnes-là sont assises sur une même table, hein, en train de prendre un pot, comme la façon dont nous sommes assis ici-là. Mais regardez un instant, ce serait très beau à voir.
La réconciliation que le président Alassane Ouattara est en train de prôner actuellement, pour moi, ce n'est pas véritablement effectif. Il y a eu une crise, il y a eu des actions de tout un chacun. Nous avons constaté beaucoup de choses. Il y a deux qui sont partis à La Haye, Dieu merci, ils sont acquittés. Si Bédié a décidé d'aller saluer son petit frère, c'est de bonnes guerres.
On a vu plusieurs alliances ici. On a vu le FPI et le RDR, on a vu le RDR et le PDCI. Vraiment, il y a eu de nombreuses alliances. Et aujourd'hui, on voit que le PDCI et le FPI, tendance Gbagbo, se sont réunis, sont vus, se sont parlé. On espère que ça va accoucher de quelque chose de bon pour la Côte d'Ivoire, parce que l'important aujourd'hui, c'est le bien-être des Ivoiriens.
Si ça peut nous mener à la réconciliation, il n'y a pas de problème. Mais moi, à mon avis, Bédié, Gbagbo, Alassane, c'est bon. Il faut une nouvelle génération pour qu'on soit tranquille. Parce qu'il me dit qu'actuellement, avec tous ceux qui ont vie, c'est parti de ces trois personnes-là.
Je pense que ça me fait une chenille froide. Parce que je pense que ces deux messieurs-là, on donne leur vie dans le passé. Hein. Voyons la vie autrement. On ne peut pas focaliser notre vie sur des politiciens, franchement, qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Henri Konan-Bédié, qui est venu, qui a fait de n'importe quoi, en parlant de l'ivoirité, qui devrait quand même aller s'asseoir, donner de conseils aux gens, en tant que sage de la nation, qui se permet encore de devenir encore candidat.
C'est une vie de courtoisie, ça peut nous permettre aussi de ne pas penser mal. Même en tant que l'ex-président, on peut toujours lui rendre des visites. Ça, c'est bien, quoi. Selon moi, c'est une bonne chose.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, plus de 6 mois après son élection, le président congolais, Félix Tshisekedi, devrait bientôt pouvoir former son gouvernement. Les plateformes FCC de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, et Cash de son successeur, se sont entendues pour gouverner ensemble. L'équipe du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba devrait compter 65 ministères, dont 42 pour le FCC, majoritaire au Parlement, et 23 pour Cash. Comment se fera cette gouvernance FCC-Cash? Quels sont les obstacles et défis? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Cela fait 10 ans que le Nigeria est confronté à l'insurrection de Boko Haram. Le conflit a été déclenché lorsque le fondateur du groupe, Mohamed Youssouf, a été tué lors d'une offensive militaire à Maïdougouri le 30 juillet 2009. 10 ans après, que pensent les Nigérians de cette guerre qui a fait environ 30 000 morts? Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Nous sommes le 30 juillet 2009 à Maïdougouri. Le leader du groupe terroriste Boko Haram et prédicateur islamiste Mohamed Youssouf est tué par la police nigériane, marquant le début d'une insurrection violente. Témoignage des Nigériens dans les rues d'Abuja.
Cela a affecté notre pays en termes de sécurité. Les gens ne se sentent pas en sécurité. Partout où vous partez ou alors que vous voyagez, soit par avion, il y a toujours cette appréhension de l'existence d'une insécurité dans le pays.
Moi, je vivais à Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno. C'est Boko Haram qui m'a fait venir à Abuja ici. J'avais 6 boutiques. Quand ils sont venus chez moi, Dieu merci, j'étais absent, mais ils ont brûlé toute la marchandise. J'ai tout perdu. Donc je suis venu ici à Abuja et je ne sais pas quoi faire. Présentement, je suis un simple chauffeur.
Le groupe est à l'origine d'une série d'enlèvements dans la région, notamment le rapt de 276 lycéennes de la ville de Chibok en 2014, la multiplication des attentats suicides sur les marchés de l'état de Borno et même la capitale fédérale Abuja n'a pas été épargnée. Quelques 2 millions de personnes sont chassées de leurs villes et villages dans le nord-est. Oumar Gola, 48 ans, a fui son village natal dans l'état de Borno. Il vit depuis 10 ans dans le camp de déplacés de Durumi, à la périphérie d'Abuja.
Nous ne sommes pas contents de vivre ici dans ce camp, mais nous n'avons pas le choix que d'accepter la situation telle qu'elle est. Ce n'est pas notre prière de nous retrouver ici. La vie continue malgré que nous nous trouvons dans cette situation. L'expérience de vie de ce camp n'est pas facile. Surtout la vie des enfants et des femmes est un calvaire. Ils sont les plus affectés par la crise.
Si le groupe n'est plus capable de capturer ou de contrôler des villes d'importance, l'armée, elle, ne parvient toujours pas à éradiquer ou empêcher les attentats récurrents, principalement dans le nord-est du pays. Pour le colonel de l'armée de l'air à la retraite, Sadiq Garbachehu, l'armée nigériane a beaucoup de problèmes.
Le premier problème, c'est le problème d'effectifs. On n'a pas assez d'effectifs sur le terrain. Le terrain là de l'Est, c'est un terrain très très large, avec beaucoup d'obstacles là. Donc, pour chaque 1000 populations, on a besoin de 25 soldats. Mais quand on parle d'effectifs, il faut aussi parler d'équipement. Avec de tous les moyens qu'il a besoin pour rester sur place, on n'a pas ça.
Le groupe est aujourd'hui divisé et s'est affilié à l'État islamique, devenant officiellement sa branche en Afrique de l'Ouest. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Et maintenant, cap sur le Bénin où le mariage des enfants est toujours une pratique courante. Pour combattre ce fléau, l'Association des femmes juristes du pays multiplie les campagnes de sensibilisation pour diminuer le taux des mariages forcés dans les zones reculées du territoire béninois. Davantage avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adande.
Cécile est âgée de 14 ans et elle a trouvé refuge auprès des sœurs salésiennes à Cotonou après avoir échappé à la stricte surveillance de son mari, âgé de 51 ans. Elle raconte sa mésaventure.
C'est mon oncle chez qui je vivais qui m'a donné en mariage à un de ses amis. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis réveillée dans une case sur une natte et c'est là que j'ai reconnu l'ami de mon oncle. Il m'a dit que je suis devenue sa femme et que mon oncle a déjà pris la dot. Il a dit pour sceller le mariage qu'il doit coucher avec moi. Je lui ai dit que je suis vierge, que je ne pourrais pas faire une chose pareille. Mais deux personnes m'ont immobilisée et il m'a violée. Pendant des jours, j'urinais du sang. Je pleurais tout le temps. Et c'est sa première femme qui m'a aidée à fuir de la maison.
De nombreuses jeunes filles sont ainsi données en mariage forcé à travers tout le Bénin, comme dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Les chiffres sont assez révélateurs. 3 filles sur 10 sont mariées peu après leur premier mariage. 3,7 d'entre elles sont envoyées dans un domicile conjugal avant l'âge de 18 ans et souvent dans les campagnes lorsqu'on n'est pas marié. À 18 ans, on est considéré comme une vieille fille rejetée dans le village. Ghislaine Bokovo est commissaire de police, responsable de l'Office central des mineurs, de la famille et de la répression de la traite des êtres humains.
La sensibilisation a très duré. Il faut frapper, sanctionner pour montrer l'exemple et ne cesse de mener cette campagne, surtout dans les organes de sécurité pour demander à mes pères de combattre le phénomène dans cette dernière rigueur.
Même si la loi punit le mariage forcé au Bénin, plusieurs paramètres empêchent la répression et la pratique continue en toute impunité. Maître Marie-Élise Guédo de l'Association des femmes juristes.
Déjà, elle est la victime, mais elle te dira « je ne peux pas amener mes parents en justice ». Ça fait déjà une première difficulté. Nous, on ne peut pas se substituer à la fille pour saisir le parquet, par exemple, pour violence. De deux, dans les deux familles, c'est la loi du silence, puisque ce sont les familles qui ont décidé du rapt de la fille et du mariage forcé. Personne n'en parle, donc personne ne peut dénoncer personne.
Face à ces difficultés pour faire respecter la loi, beaucoup estiment que pour combattre la pratique, il faut sensibiliser et associer les chefs religieux et coutumiers. Pour Chanceline Mevoanou, une web active. La pauvreté et la cupidité sont parmi les causes tenaces des mariages forcés.
C'est parce que la situation à la maison n'est pas très reluisante. La famille pense que quand on va donner cette fille à un homme, l'homme va mieux prendre soin d'elle et lui donner à manger. Mais
face à l'ampleur du phénomène, les artistes aussi sont mobilisés. Pour Cécile, ambassadrice itinérante de l'UNICEF, le respect de la tradition ne saurait servir d'excuse à la violation des droits des enfants.
Une fille qui n'est pas encore en âge, garder une grossesse qui est donnée en mariage, qui subit des rapports sexuels de force. Donc c'est une très belle cause et je suis prête et je me suis engagée dedans.
C'est donc une longue course d'obstacles, mais le Bénin espère venir à bout du mariage des enfants d'ici 2030. De Cotonou, Ginette Lua Danley pour VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le programme YALI revient pour une nouvelle édition aux États-Unis. La Young African Leaders Initiative du département d'État américain, ou YALI donc en un mot, eh bien le programme vise à forger un réseau actif de jeunes leaders africains et consiste en une formation de 6 semaines dans des universités américaines. Dili Diko a rencontré l'un d'eux à Washington. Espoir Ngalunkiye est un jeune organisateur communautaire en République démocratique du Congo. Nous l'écoutons.
Mon projet, c'est dans les leadership in public management pour rendre la population plus exigeante et rendre les citoyens plus exigeants et rendre aussi les dirigeants plus redevables. Parce que aussi longtemps que les gens pensent que les problèmes du Congo, c'est la guerre, les gens pensent que les problèmes du Congo, c'est les manques d'infrastructures, c'est l'injustice. Pourtant, les problèmes du Congo, c'est la mauvaise gouvernance. Il faut combattre cette mauvaise gouvernance en rendant la population plus exigeante envers elle-même, ça veut dire s'acquitter de ses devoirs, être exigeante envers ceux-là qui ont le pouvoir, n'importe quel pouvoir, et rendre aussi les dirigeants plus redevables envers le peuple.
Comment se sont déroulées ces 5 semaines dans une université américaine et où est-ce que vous étiez?
J'étais à l'université de Virginia Tech avec d'autres 24 fellows venus de 16 pays d'Afrique. On a appris les leaderships et nous avions appris nos forces, qu'on appelle en anglais nos strengths. J'ai redécouvert mes forces en fait. L'une des choses importantes, c'est de se focaliser sur ses forces au lieu de se focaliser sur ses faiblesses. Avec les différentes visites des sites, les différentes visites de l'administration américaine qu'on aille à faire dans les organisations, dans les entreprises et aussi le networking entre nous Africains et entre les Américains aussi. Ces réseaux-là, c'est une très grande richesse qu'on va essayer de mûrir pour qu'on puisse accroître. Ce qu'on fait au pays, on va l'exporter dans d'autres pays et ce qui se fait mieux dans d'autres pays, on va l'amener dans notre pays parce qu'il n'y a pas de grande richesse que l'information et que les réseaux.
Comment est-ce que vous allez utiliser l'expérience acquise ici pour améliorer votre projet dans votre pays?
Je vais utiliser les outils, je vais utiliser les réseaux et je vais continuer à me focaliser sur mes forces, je vais me focaliser sur ceux-là qui sont compatibles avec moi et continuer toujours à nous focaliser toujours à la lutte contre la mauvaise gouvernance. Si on a une bonne gouvernance, le Congo sera les États-Unis d'Afrique.
Et de façon générale, comment s'est passé votre séjour ici?
Ça se passe très bien, j'ai découvert les États-Unis nous, quand on est en Afrique, on a l'image des États-Unis, de la télé, de Hollywood. On a découvert l'image des États-Unis. Il y a des personnes qui sont pauvres. On a découvert que les Américains ne sont pas, tous ne sont pas arrogants. Il y a des Américains qui sont tellement accueillants, tellement simples comme des Africains. J'ai découvert aussi que les Américains respectent la loi. Ça, c'est une très grande leçon. Et l'une des leçons, c'est le respect du temps. Le temps, c'est l'argent. Le temps, c'est la vie. Et aussi, j'ai découvert qu'il y a des personnes qui réfléchissent comme moi, qui pensent que les problèmes de l'Afrique sont énormes et la solution, c'est entre nous. Nous ne sommes pas les futurs, mais nous sommes les présents pour les futurs. Ce qu'on fera, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'avenir de notre continent.
Et voilà, c'est ici que nous allons clore Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. D'autres nouvelles, bien évidemment, sur la page Facebook de VOA Afrique, voaafrique.com également, c'est notre site internet. Et voilà, la mise en onde a été assurée par Georges Lézard Samieux. À la console, on avait Karl Sterling. Voilà, merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. D'autres infos avec Henri dans quelques instants. À très bientôt. Bonne écoute.
VOA Afrique.